Voilà, alors oui, il se trouve donc que j'ai été pasteur dans des églises de réveil pendant 27 ans. Et ça fait maintenant 6 ans que je suis à plein temps professeur d'Ancien Testament, d'hébreu notamment. C'est essentiellement les branches que j'enseigne à l'HET Pro, déjà dans le cadre d'Emmaüs, mais voilà. Et donc, c'est la première fois que je donne un enseignement sur Israël construit comme cela. Je veux dire, j'en ai toujours parlé, mais. Alors c'est une photo que j'ai prise en avril dernier au Kotel. C'était pendant la semaine après Pessah et on ne pouvait même carrément pas arriver au mur quoi, en tant qu'outsider. Et là, ils priaient, c'était le mercredi, et il y avait tout le temps plein de monde en prière. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de châles de prière du peuple des Juifs présents, des hommes bien sûr, puisque malheureusement, depuis le milieu des années 70, les Juifs ont séparé les hommes des femmes, alors qu'au début, c'était ouvert à tous des deux côtés. Même, c'est séparé hommes-femmes depuis, parce que les ultra-orthodoxes ne veulent pas de femmes avec eux de leur côté. Donc, il n'y avait que les hommes. Mais là, vous voyez la passerelle qui va jusqu'à l'esplanade du temple. De l'autre côté, il y a les femmes aussi. Des fois, elles regardent par-dessus quand il y a une bar mitzvah ou des trucs comme ça. Voilà, mais je ne vais pas m'étendre sortir du sujet parce que j'ai beaucoup de matière à aborder avec vous aujourd'hui. Et dans ce que je vais aborder, vous allez être forcément frustrés parce que je ne peux pas parler de tout, parce que je vais prendre un angle qui peut-être n'est pas celui auquel on a l'habitude quand on fait des conférences sur Israël. Je vais vous proposer quatre temps, à peu près 40 minutes par temps, 50 minutes par temps. Le premier volet me semble très indispensable sur cette question, c'est de discerner le défi que représente notre sujet en lien avec notre propre comportement. Le Seigneur a quelque chose à nous dire sur notre attitude de cœur. Est-ce que nous pouvons nous questionner de manière chrétienne, c'est-à-dire dans l'amour, la paix et la joie de l'Esprit Saint, quand on aborde la question d'Israël? Est-ce qu'on peut éviter de tomber dans les anathèmes, dans les jugements si fréquents entre chrétiens sur ce sujet? Je crois que c'est le premier défi. Si j'arrive à marquer des points, ou le Seigneur arrive à marquer des points sur ce sujet, entre les pros, les anti, les je ne sais pas, qu'on puisse entrer dans quelque chose de plus apaisé qui correspond à ce que Dieu veut voir dans son Église. Le deuxième enseignement va parler de diverses notions. Alors aujourd'hui, je vais parler de différentes notions qui touchent à notre sujet, parce qu'il y a des notions et du vocabulaire, des concepts qui nous permettent de comprendre, de nous comprendre aussi les uns les autres, de discerner la nature des débats. C'est important d'en parler. Souvent, on fait des raccourcis quand on parle d'Israël, on a des choses. La question, par exemple, est-ce que vous aimez Israël? Est tellement piégée cette question. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je dois être soutien du gouvernement israélien? Ça veut dire que j'aime les Juifs? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit est-ce que tu aimes Israël? Ou voilà. Vous voyez le genre de choses. Et là derrière, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un Israélite? C'est quoi un Hébreu? C'est quoi un Juif? Hein, c'est quoi le sionisme? C'est quoi l'antijudaïsme? On va voir tout ça ensemble. Troisième enseignement, ce sera cet après-midi. On verra les différentes grilles d'interprétation chez les chrétiens. Il y a quatre manières de concevoir les temps de la fin par rapport au peuple juif aussi. Et c'est important. Et puis, bien sûr, je vous dirai ma préférence, mais c'est important de savoir qu'il y a des chrétiens qui aiment le Seigneur, qui ne pensent pas toujours exactement comme nous. Et puis, dernier volet, nous verrons quelques textes bibliques importants. Voilà, on va essayer de voir aussi les défis que, par exemple, présente l'interprétation d'une prophétie eschatologique sur Jérusalem, voir que ce n'est pas si simple de donner une réponse comme ça. Voilà. Donc, mon approche, je suis pasteur, je suis théologien, donc ce serait une approche théologique et biblique. Je vais essayer d'éviter de faire des développements de type politique ou géopolitique trop spécifiques. Il y a beaucoup de conférenciers qui vont faire essentiellement ça. Ils vont parler de la fondation d'Israël, du conflit israélo-palestinien, de ce qu'il faut penser, je sais pas, du dernier accord, de la dernière proposition de l'Empire américain pour résoudre le problème israélien, s'il faut être pour et contre. J'ai même entendu des gens qui disent pour qui il faudrait voter en Amérique, puis contre qui il faudrait voter, prendre un tour politique comme ça, brûler les cierges ou à Trump ou le mettre sur un bûcher, etc. Et mon but, ce n'est pas du tout ça. D'abord, Jésus n'a jamais fait ça. Jésus ne s'est pas mêlé de politique, il a dit foutez la paix à César, donnez-lui son fric et on ne s'occupe pas de César. Moi, je ne vais pas m'occuper de Trump, je ne m'occupe pas de César. Moi, je m'occupe du Seigneur et de sa parole et je vais essayer de prêcher l'évangile. Donc mon but, c'est plutôt de vous donner, après on peut toujours discuter comme ça, hein, politique, mais ce n'est pas mon but ici. Le but, c'est de créer un fond de toile ou un fond de sauce qui permette une saine et une sainte approche de la question des rapports entre l'Église de Jésus-Christ et le peuple juif, et bien sûr, et la réalité de la nation d'Israël aussi. Alors, c'est sous cet angle-là, donc vous serez peut-être frustré, de dire, oh, mais j'aurais aimé que Robin m'explique si Obama c'était vraiment l'antichrist, si, etc., comme les bruits courent. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde, les gens ont des théories très intéressantes. Ça ne m'intéresse pas, personnellement. Ce qui m'intéresse, c'est Jésus, nos frères en humanité juifs, avec qui nous sommes appelés à entrer en relation, et avec qui j'entre en relation régulièrement. Alors, avant d'aller de l'avant, je propose juste de lire la bénédiction aaronique, nombre 6, cette bénédiction qui est demandée aux prêtres de prononcer sur le peuple par lequel Dieu va bénir Israël. Que te bénisse Adonai et qu'il te garde, que fasse briller Adonai son visage sur toi et qu'il t'accorde sa faveur, que lève Adonai son visage vers toi et qu'il établisse pour toi la paix. Voilà la prière qu'on peut aussi invoquer sur soi-même, demander, hein, la garde, la faveur et la paix de Dieu, qui d'ailleurs, si on le voit avec un regard chrétien, évoque indirectement la Trinité et les appropriations particulières aux différentes personnes de la Trinité. Mais je vous laisse ça en teasing, je ne vais pas faire le développement, sinon j'ai vraiment loupé mon coup. Alors le premier volet, c'est Israël et l'Église, controverse et sanctification. Oui, quand on parle d'Israël, on parle dans la tempête, très souvent, et malheureusement, la tempête est dans l'Église, trop souvent. Et pour moi, quand Benjamin m'a demandé de venir parler d'Israël, c'est un défi psychologique et c'est un défi spirituel, parce que, vraiment, le niveau des passions est parfois tellement fort sur le sujet que c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'on va parler, et il y a des gens qui veulent qu'on dise absolument ce qu'ils veulent déjà à l'avance entendre, et qui vont être contrariés, puis les désirs étant différents les uns des autres, ça devient compliqué. Donc, en se faire traiter, voilà, je vais dire, il y a des colères, il y a des anathèmes dans ce domaine assez violents, et même des chrétiens que Jésus demande d'être des artisans de paix, on doit être des artisans, des gens qui génèrent la paix autour de nous, eh bien, les chrétiens se disputent violemment sur le sujet, y compris avec leurs frères et sœurs. Et en plus, on est dans un monde qui est déchiré. La question d'Israël, le conflit israélo-palestinien, on sait très bien, si vous voulez créer le souk dans un dîner de famille, il faut soulever le sujet. C'est un des sujets où ça part vite en quenouille, comme on dit. Et on est un monde comme ça. Parler des Juifs d'Israël, c'est parler dans une tempête. Et donc, mon premier but, c'est de dire, mais comment est-ce qu'on peut, de manière sanctifiée, parler de la question d'Israël? Alors, déjà, une première réalité, c'est que l'Évangile est pour les Juifs aussi. Mais comment est-ce qu'on peut penser l'annonce de l'Évangile ou la communication de l'Évangile aux Juifs? Il y a plus de 2000 ans de relations complexes, pour le moins, entre une certaine chrétienté et les Juifs. Et ça a créé des barrières, des méfiances, des rancœurs qui viennent vraiment brouiller, on va dire, le tableau. Et nous vivons une tension, la tension créée par l'Évangile, c'est-à-dire l'amour que nous devons porter aux Juifs. Parce que cet amour nous demande de les respecter, de les honorer dans leur rôle, dans le plan de Dieu. Et en ces temps derniers, je crois, ils ont un rôle. Voilà. Il y a un plan pour eux, particulier. Et cet amour pour les Juifs nous enjoint de nous opposer avec la plus grande fermeté à toutes les formes de discrimination, aux discours négationnistes, aux formes diverses de judéophobie. On en parlera en détail, hein, dans le deuxième volet. Et nous devons nous tenir aux côtés des Juifs, en tant que Juifs, chaque fois qu'ils sont persécutés dans ce monde. De l'autre part, notre attachement à l'Évangile demande aussi que nous soyons des témoins du Christ auprès des Juifs, comme nous le sommes pour tous les êtres humains. Et ça implique qu'il y a un appel à revenir à Dieu, que c'est Jésus, Juif, et les apôtres juifs qui ont commencé à interpeller leur propre peuple, Juifs, dans ce sens-là, et nous, dans leur continuation, oui, nous devons poursuivre ce mandat d'annoncer l'Évangile à toutes les nations, mais à Israël aussi, et aux Juifs aussi. Dieu nous envoie vers tous les hommes pour que tous trouvent en Jésus leur salut éternel. tous ont péché, et quand Paul dit tous ont péché, les juifs sont dedans. Hein. Et d'ailleurs, cette façon, il cite un psaume qui n'évoque peut-être que les juifs au départ, ou les israélites. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont tous gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ, en mettant leur foi en Christ. Il n'y a qu'un seul moyen d'être sauvé. Et il faut reconnaître que la religion juive rejette la messianité de Jésus, rejette la Trinité, rejette le message de la grâce, et ça crée une tension, ça crée une rupture entre judaïsme et évangile, qui n'est pas la rupture entre Ancien Testament et évangile. Attention, c'est là qu'on fait souvent une confusion. Je vous donne une expérience récente, hein, ça fait peut-être un mois et demi ou deux. Je suis sur Twitter et j'ai des contacts avec toutes sortes de personnes, dont une juive orthodoxe très intéressante. Mais mon premier contact avec elle, j'ai mis une remarque sur je ne sais plus quel sujet. Je dis, voilà, mon rabbin Jésus pense que... Voilà. Elle a dit, comment ça? C'est inacceptable. Vous ne pouvez pas appeler Jésus un rabbin. Il a trahi le judaïsme. Et puis j'ai dit, ah bon, oui. Oui, parce qu'il ne considérait le péché que sous l'angle moral, des fautes morales. Puis alors j'ai dit, oui, donc ça veut dire que vous trouvez que Jésus n'a en effet pas étendu le péché aux règles de pureté. Puis il dit, oui, c'est ça. Mais chez elle, il y a une réaction viscérale de dire, moi, en tant que chrétien, je suis un disciple de Jésus, juif, que je considère comme mon rabbin. Pour une juive orthodoxe, c'est inacceptable. Hein? Alors que, 2-3 tweets avant, elle se vantait en tant que juive d'être une adepte de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, c'est un juif du XVIIe siècle qui a pris tellement de distance avec le Dieu biblique, au point de même ne pas concevoir un Dieu personnel, qui s'est fait éjecter de la synagogue à cause de ça. Je veux dire, il est à l'origine du libéralisme. Donc on a une juive orthodoxe qui n'a aucun problème à être fière de dire « moi je suis une rationaliste spinoziste », donc quelque chose qui est quand même très hérétique pour un juif. Mais alors, quelqu'un qui ose se réclamer de Jésus comme son rabbin, c'est inacceptable. Alors, sachez que, bon, c'est toujours comme ça quand on discute, hein. C'était vif à ce moment-là, mais on s'est beaucoup bénis mutuellement par la suite. Et je fais attention, je n'appelle plus Jésus mon rabbin, je n'ai pas besoin de provoquer non plus, puis utiliser le chiffon rouge pour voir s'il réagit. Mais ça montre cette histoire-là, toute simple, elle est fréquente, qu'il y a un vrai passif entre les chrétiens et les juifs, avec des réflexes de défense automatique et de la passion, et des réactions passionnelles. Et par exemple, si on parle de conversion à Jésus, c'est quand même compliqué, sachant ce que l'histoire a fait, de la conversion forcée, etc., et que pour les juifs, et d'ailleurs, si vous parlez des juifs messianiques, ils vous diront, mais moi je ne suis pas devenu chrétien, je suis devenu un disciple de Jésus, je suis Jésus comme le Messie, parce que je ne veux pas qu'on me demande de perdre ma culture juive, mon environnement juif, pour devenir un pagano-chrétien, un païen chrétien comme vous. Je suis un juif qui croit en Jésus, et cela va... quittancer, ou je dirais embellir ma culture juive, et même je vais garder des aspects de la pratique religieuse juive, dès l'instant où c'est visité par l'évangile, et je vais être un judéo-chrétien. J'ai discuté une fois à Jérusalem avec un juif messianique, c'est vraiment ça. Donc ils ne veulent pas être identifiés à n'importe qui, et ils pensent qu'au contraire, que de devenir un disciple de Jésus, c'est être encore plus juif, c'est d'être vraiment juif comme Dieu voudrait qu'on le soit. Hein. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors on va parler du lourd passif de l'histoire. Il faut être conscient de ce qu'on a derrière soi. Il y a à peu près 2 millénaires de relations troublées entre chrétiens et juifs, en tout cas certains chrétiens et certains juifs. Et il faut quand même voir que ce niveau de tension remonte au temps du Nouveau Testament déjà chez Jésus. Jésus lui-même s'est opposé à des pans entiers des courants religieux de son peuple. Ses références aux prophètes persécutés, souvent il se montre comme étant la suite des prophètes persécutés, ces prophètes persécutés tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament. Jésus souligne aussi que ces prophètes qui l'ont précédé et qui ont été persécutés par les autorités israélites de l'époque étaient des gens qui venaient dénoncer l'infidélité des rois, etc., du peuple, dans l'idolâtrie, etc., que Jésus lui-même se voyait comme un prophète qui venait reprendre Israël, l'appeler à la repentance, repentez-vous car le royaume est proche, parce qu'il considérait que la pratique judaïque de son temps, dans les différentes écoles, à des degrés différents, était une trahison aussi grave que l'idolâtrie d'avant l'exil babylonien. Et donc Jésus était vraiment en conflit. Et Jésus, quand il parle aux religieux, c'est surtout avec les religieux qui avaient un problème, pas avec les juifs, bien sûr, dans leur ensemble, hein. Il évoque de futures persécutions comme la reproduction des martyrs du passé. Je lis dans Matthieu 23, 33 à 36, « Serpent, race de vipère », allusion au serpent primordial, hein. Il est très clair, il dit ailleurs que leur père c'est le diable, donc il est très clair sur la spiritualité et le combat spirituel auquel il y a affaire. « Comment échapperez-vous au jugement de l'enfer ? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des spécialistes de la loi. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous fouetterez les autres dans vos synagogues et vous persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent versé sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Berechia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela retombera sur cette génération. » On ne peut pas dire que c'était des douces paroles, je veux dire, diplomatiques. C'est très frontal et il y a donc un vrai conflit. Un autre élément qui nous échappe parfois, c'est que Jésus et Jean-Baptiste baptisaient dans le Jourdain. On se dit, oh, c'est joli, nous aussi on aime bien aller au lac, une rivière, on baptise. Mais il faut réaliser la provocation que c'était de l'époque. À l'époque, c'était les autorités du temple qui géraient tout ce qui avait lieu pour les ablutions, la purification, etc. Et voilà deux prophètes qui se lèvent dans le pays et qui baptisent les gens en dehors du circuit, circuit financier, circuit politique, circuit d'emprise de la religion sur les gens. C'était très provocant. Et les critiques du Seigneur envers le système religieux et les provocations, même simplement parce qu'il guérissait les malades, etc., d'une manière un peu non orthodoxe, c'est une des causes de sa mort. Un des arguments pour lesquels on a voulu le tuer, c'était toujours à la suite d'un enseignement ou d'un miracle. Et il ne faut pas nier une réalité d'un véritable désir qui a mené à sa crucifixion. Alors, la crucifixion correspond à l'ampleur de Dieu. On va parler de près d'accusations odieuses contre le peuple juif en général, qu'il faut dénoncer, c'est clair. Mais il y a eu des gens du temps de Jésus, des juifs, parmi les religieux, pas tous, qui sont responsables, avec les Romains, avec d'autres, de la mort de Jésus. Il ne faut pas non plus, par philosémitisme, par amour des Juifs, dire « mais non, il n'y a jamais rien eu, il y a eu quelque chose de grave ». Et le Nouveau Testament nous en parle. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut considérer simplement que Jésus était en conflit avec le système politico-religieux de son temps, comme l'ont été la plupart des prophètes. Les prophètes étaient contre le nationalisme israélite. Regardez Jérémie, regardez Isaïe, quoi. Ce nationalisme aveugle qui dit on a le temple, donc on est bon, on est le peuple élu, mais on s'en fiche de Dieu. Les prophètes étaient très sévères sur ce sujet. Ils disaient, vous pouvez dire le temple, il va être détruit le temple. Si vous continuez à vous prévaloir que vous êtes le peuple élu et que rien ne peut vous arriver de ce fait-là, Dieu, vous n'êtes pas que le peuple élu, vous êtes un peuple qui fait alliance avec son Dieu. Donc c'est des messages que Jésus aussi a apportés. Et puis Jésus aussi, il y a eu une destruction du temple qui est aussi un jugement de Dieu sur une forme de refus, de rejet du plan de Dieu. Après la Pentecôte, l'Église naissante, si vous lisez les actes, eh ben, dû faire face à l'autorité des autorités religieuses juives essentiellement, pas toutes de nouveau, et il y a eu vraiment une répression, alors ici ponctuelle, là généralisée, contre les premiers disciples de Jésus. À Jérusalem, acte 4, acte 5, acte 7 avec la lapidation d'Étienne, acte 8, une grande persécution qui fait partir l'Église au-delà de Jérusalem en Samarie et ailleurs. Certains voient même que Dieu a permis ça pour que l'Église devienne plus missionnaire et reste moins enfermée sur Jérusalem. Voilà, en tout cas, c'est l'effet. À Damas, grande persécution aussi, avec Paul, acte 9, Paul qui doit partir de Damas dans un petit panier. À Iconium, ça c'est plutôt en Asie mineure, et à Thessalonique, on va en parler de Thessalonique, un endroit où vraiment les apôtres ont pu prêcher pendant trois samedis dans la synagogue, après un petit peu après, mais ils ont dû déguerpir la nuit de la ville parce que certains des juifs, pas tous, de nouveau on va voir, voulaient les tuer et ils avaient réussi à engager bien sûr des non-juifs avec eux. Et si vous lisez la lettre aux Thessaloniciens, on va le faire un petit bout, on voit que quelques semaines, quelques mois après, quand Paul leur écrit à cette jeune église, ben, la persécution continue. Donc c'est une histoire compliquée. Et au long des premiers siècles, il y a eu vraiment une animosité de la part des chrétiens qui n'étaient pas du tout une église au pouvoir. Hein. C'est au IVe siècle que les choses changent. Mais avant, ben, les chrétiens étaient opposés aux juifs sur le plan théologique. Et il y a vraiment eu une crispation. On peut lire les textes des pères de l'église. Il y a des sorties sur les juifs qui ne veulent pas croire, hein, et donc contre lesquels on est en conflit. Puis malheureusement, bon, on a cette adoption de la foi chrétienne, ou plus ou moins chrétienne, par les empereurs de Rome. Et là, l'hostilité, on va dire, théologique, le débat, on a le droit de ne pas être d'accord sur un sujet avec quelqu'un sans le haïr, hein, quoique ça prenait déjà des chemins de haine, mais dès l'instant où le christianisme est devenu obligatoire, eh bien, cette hostilité est devenue persécution. On s'est mis à persécuter les Juifs sous l'empire soi-disant chrétien de Rome. Notamment Théodose II, l'empereur qui a imposé le christianisme, ça a mené une année après, à près de 18 000 hérétiques ariens, hommes, femmes, enfants, à se faire massacrer au nom de la Trinité. Donc on ne massacre pas que les Juifs, mais lui, Théodose, pour les Juifs, a interdit aux Juifs d'occuper des postes importants qui impliquaient de l'argent. Donc déjà, l'horrible lien que les gens font entre les Juifs et l'argent commence déjà là. Et il édicte une loi qui interdit de construire des nouvelles synagogues. Ils ont le droit d'aller à la synagogue, mais ils n'ont pas le droit d'en faire une deuxième. Hein. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle le temps du christianisme constantinien qui va durer, on va dire, grosso modo, jusqu'au XVIIIe siècle. Hein. Une église au pouvoir dans un pays persécutrice, totalitaire, en Suisse aussi. La Suisse a été fondée dans un christianisme constantinien qui implique la violence. Si un brave évangélique s'était promené sur le Rütli le jour, bon c'est mythique, mais sur le jour du serment du Rütli, il serait sur un bûcher. Faut pas, voilà. Et ces gens qui ont... Hein ? Oui, et puis la Suisse... n'est pas une nation chrétienne, ne l'a jamais été. Elle a été marquée par le christianisme, éventuellement, culturellement. Mais pas plus que ça. C'est pour l'argent et c'est dans la violence que ce pays est né, contre d'autres chrétiens. Les Habsbourg n'étaient pas moins chrétiens que la Suisse. Donc c'est une histoire, des fois on a une mythologie sur la Suisse, on croit que c'est Heimat, Heidi, etc. C'est un peu plus long, c'est plutôt les banques, le blanchiment d'argent et les mercenaires. Quand on lâchait les Suisses et les champs de bataille au XVIIIe siècle, je vous assure que ce n'était pas tendre. Il y a que leur Morgenstern, ils fracassaient les gens, là. Les gros de Houry, là, avec leur machin. Voilà, donc c'est ça la Suisse, quoi. Bien que notre drapeau est un paradoxe, puisque c'est un drapeau carré qui représente une bannière de guerre, on est un des rares pays qui a une bannière de guerre comme drapeau, mais la croix dessus est la croix d'un objecteur de conscience. C'est la croix de Saint-Maurice, qui était un berbère, un arabe, oh là là, un berbère. Qui, en Suisse, a refusé de massacrer les chrétiens, parce qu'il était chrétien lui-même, et il s'est fait tuer, ainsi qu'on a décimé sa division, sa légion, donc un homme sur dix exécuté, parce qu'ils ont refusé de violenter les chrétiens. Donc on a un drapeau qui est une bannière de guerre, mais avec la croix d'un objecteur de conscience. Voilà tout notre paradoxe. Bon. Parlons après donc, de cet anti-judaïsme qui grandit, mais après, dès le 19e siècle, viennent des thèses racistes, pas que par rapport aux Juifs, mais on a un Occident qui va élever, aussi avec le contact avec d'autres civilisations, un sentiment de l'Occident supérieur à l'Afrique, supérieur aux autres races. Et bien sûr, vous savez que la statue de la liberté, ce n'est pas la statue de la liberté, le vrai titre. La statue de la liberté éclairant le monde. La lumière vient bien des États-Unis pour éclairer le reste du monde. C'est comme une idée déjà très à un seul sens de qui éclaire qui, hein. Sachant que Bartholdi, qui a fait la statue, et Eiffel, qui a fait la structure intérieure, étaient tous deux des francs-maçons portés par cette idée des Lumières, qui importe souvent l'idée avec elle, à l'époque, de la supériorité de la culture occidentale. On voit, mais ça c'est juste un petit effet, mais je veux dire, voilà, toute la théologie libérale et tout a pris ce regard très négatif, y compris sur la Bible. Vous imaginez quand même que des Juifs ne peuvent pas être à l'origine des plus belles pensées de la Bible, ça peut, etc. Donc il y a un racisme qui a... Alors l'antisémitisme, on va parler en détail, mais s'attaque aux Juifs, quelles que soient leurs convictions. L'anti-judaïsme chrétien... Si un juif se convertit à Jésus, c'est un frère. Et on s'oppose à un juif non-croyant, ou un juif qui croit à sa religion judaïque, parce qu'il ne croit pas en Christ, et c'est une opposition normalement théologique, qui ne devrait pas, malheureusement, ça dérailler en haine, mais disons, c'est cet ordre-là. Tandis que l'antisémitisme, que le juif ait été baptisé, qu'il soit chrétien ou athée, on s'en fiche, c'est sa race, il y a un argument racial, qui amène une opposition aux juifs. Je vais vous donner un exemple classique, ou classique, parmi d'autres, un compositeur juif autrichien, Gustav Mahler. Gustav Mahler, si vous écoutez les symphonies de Mahler, elles sont très très belles, 19e siècle, il s'était fait baptiser catholique à Hambourg en se convertissant de cœur au catholicisme dont il appréciait la théologie. Et il a vraiment donné sa vie au Christ. Vraiment, il s'est fait baptiser. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a forcé à se faire baptiser parce qu'il y avait une église persécutante. C'est vraiment un juif qui est devenu chrétien, alors catholique. Comme ça, il a fait la démarche du baptême. C'est extraordinaire. Mais une fois qu'il était à Vienne, Cosima Wagner, la seconde épouse de Richard Wagner, a essayé de faire annuler ses concerts parce qu'elle était, comme Richard Wagner, antisémite. Donc il y a une persécution par la famille Wagner, hein, l'auteur des grands opéras, un peu d'ailleurs néo-païens, etc. Et les Wagner, et, voilà, toute la culture wagnerienne est touchée par l'antisémitisme. Je ne pense pas que si on aime Wagner, on est un antisémite. Bon, c'est une question de goût. Mais il y a quand même une histoire très trouble là. Et quand les nazis viendront au pouvoir, ils vont interdire Mahler. On ne pourra plus écouter du Mahler, on ne pourra plus en jouer. Hein. Et Mahler dit, pour son malheur, « Je suis trois fois étranger sur la terre, comme natif de Bohème en Autriche, puisque bon, bah voilà, il a émigré en Autriche, comme autrichien en Allemagne et comme juif dans le monde entier. » Donc il a souffert de sa judaïté, alors que sur le plan de changer d'avis au niveau de la foi, ben, il était à Vienne, en bon catholique, il est traité de bon catholique. Et, si tu es devenu protestant, on aurait pu comprendre qu'on lui fasse des noises. Parce que protestant à Vienne, c'est encore compliqué aujourd'hui. Hein. Quoi, peut-être moins quand même. En tout cas, voilà. Et c'est vrai qu'avec ce passé terrible et honteux, l'idée même de christianisme résonne aux oreilles d'un juif comme quelque chose de formidablement offensant. Il y a comme une sorte de souvenir collectif, une mémoire collective qui fait s'élever tout de suite des réactions qu'on peut comprendre, hein, même si elles sont fausses, qu'il ne faudrait pas qu'ils généralisent comme nous, on ne devrait pas généraliser à leur égard. Et moi, je remarque quand même que chez certains évangéliques, même aussi, cette histoire abominable les laisse dans un inconscient collectif parfois d'hostilité. Alors souvent sur le lit du conflit israélo-palestinien et de ses complexités, où des gens prennent des positions des fois dures. Alors c'est vrai qu'il y a la base, hein, que Jésus dit qu'il n'y a plus juif ni grec, plus esclave ni homme libre, ni homme ni femme, car on est tous un en Jésus-Christ. Et donc dans cette vision-là, certains chrétiens disent non, mais voilà, les juifs, le peuple d'Israël, etc., maintenant qu'il y a l'Église, la réalité d'un peuple d'Israël n'a plus cours, quoi. Il n'y a plus vraiment, il n'y a pas de rôle particulier aux juifs aujourd'hui, la seule réalité c'est la réalité de l'Église. Voilà. L'Église est la continuité de ce peuple spirituel, ce qui n'est pas faux, hein. Le peuple spirituel, parce que finalement tous les croyants nés, quoi, sauvés par la foi en Dieu depuis Abraham, depuis même avant Abraham, sont unis, hein, en Christ, voilà. Et donc, on met complètement de côté les Juifs. Mais ça a été au point que même un brave pasteur évangélique que j'aime bien et qui je ferai, j'ai dit, moi je vais bientôt aller en Israël, je me réjouis, je vais aller voir, j'aime beaucoup voir le désert, etc. Il dit, c'est quoi Israël? Ça ne veut plus rien dire. C'est quoi cette histoire d'une nation puis du peuple juif? Mais ça n'a plus de sens. Moi ça ne me donne absolument pas envie d'aller en Israël. Puis moi j'ai dit, mais écoute, même en tant que chrétien, tu as peut-être envie quand même d'aller voir le mont des Oliviers, tu as peut-être envie de voir le lac de Génézareth où Jésus a marché sur l'eau, tu as peut-être envie d'aller dans le désert. Tu as peut-être envie quand même, si tu lis la Bible, il y a l'histoire de Moïse, des apôtres, des prophètes. Non, ça avait l'air d'être au-dessus de lui, une espèce de réaction complètement, dire « veux pas savoir, connais pas, ça n'existe plus ». Non, c'est pas antisémite, parce qu'il va jamais dire « les juifs sont une race méchante ». Mais il dira même un juif, non, il faut lui annoncer l'évangile, il peut devenir chrétien, c'est mon frère. Mais il n'est pas plus... il n'y a pas quelque chose de particulier à un juif par rapport à un Suisse allemand, un Togolais ou un Coréen. Maintenant, on est tous appelés à devenir des enfants de Dieu. Puis on arrête de faire ces distinctions. C'était un peu court, j'ai rarement vu une réaction à ce point-là. Maintenant, on va juste parler, pour clore ce sujet, vous me dites, hein, si vous tenez le coup, si voilà. N'hésitez pas, de temps en temps, hein. Je vais parler de la question des opinions prioritaires et secondaires. Les passions existent entre chrétiens, on a aussi, chacun d'entre nous, nous avons nos passions. Les chrétiens sont passionnés notamment sur la fin des temps, et donc notamment sur le rôle que jouent les juifs dans ces événements, ou pas, hein, selon les convictions. Et il y a des interprétations particulières qui s'affrontent, et souvent les débats d'idées tournent à l'aigre, Hein, et le comportement se mue en attaque personnelle. D'un côté, on accuse les uns d'être antisémites, et dans l'autre, on accuse les premiers d'être de judaïser, de retourner au judaïsme. Ici, on dit « Ah, mais moi, je suis pour une lecture purement littérale », ce qui est une illusion, mais « Je suis pour une lecture purement littérale des prophéties ». Et puis de l'autre côté, « Non, non, il faut vraiment lire les prophéties de manière métaphorique, il n'y aura pas de restauration physique de Jérusalem à la fin des temps ». Bref. Et le problème, c'est que la controverse, des fois, elle est violente. Et elle est violente comme on voit une controverse sur l'interprétation des récits de la création, de la Genèse, où là, on a des chrétiens qui se maudissent ou qui se méprisent mutuellement, et qu'il y a des noms d'oiseaux. Je donne un cours sur la Genèse, je donne 24 heures de cours, mais je passe 8 heures à expliquer à mes étudiants les différences et comment entrer, engager la conversation avec un chrétien qui croit tout autant à l'inspiration de la Bible que moi, mais qui ne croit pas exactement la même chose sur comment lire Genèse 1 et 2. Et c'est une école vraiment spirituelle, c'est-à-dire il faut savoir parler et d'abord avoir tous l'humilité. Pour les temps de la fin, comme pour le commencement du monde, ben, nous sommes tous quand même petits devant un sujet qui nous dépasse. Nous pensons comprendre des choses, nous essayons de vivre en cohérence, mais c'est quand même un sujet très complexe. Et je vois des fois des raccourcis tellement bêtes dans les deux domaines, où on croit que ouais, d'un coup de cuir à peau, il suffit de 2-3 versets placés ici, lancés au hasard, sur le sujet pour qu'il soit résolu, que c'est simple, et que si on n'y croit pas, c'est qu'on n'est pas un croyant, qu'on n'aime pas la Bible, qu'on n'aime pas la parole de Dieu, qu'on n'aime pas Jésus, qu'on n'est pas sauvé, peut-être. Ou on est sauvé comme par le feu, diront certains. Je voudrais juste souligner que la Bible rattache les passions au péché. Il y a même toute une lecture à faire, que j'ai lue d'un rabbin récemment, sur la chute, où la tentation du serpent, c'est de dire, en tant qu'animal, si on prend l'image, c'est bien sûr, on sait que c'est Satan derrière, mais le serpent en tant qu'animal appelle Ève en disant, mais au fond, parce qu'il dit, il dit en gros, Ève, oui, tu as reçu une parole de Dieu, mais au fond, tu as des instincts. Écoute tes instincts, moi je suis un animal. Moi, je n'ai pas de parole qui structure ma vie. J'ai les instincts. Et si on regarde comment Ève se tourne vers le fruit, c'est qu'il était désirable, qu'il était beau. Il y a beaucoup un accent sur le désir d'Ève. Et tout le débat, c'est que non, l'être humain n'est pas son désir. Il a des désirs, il a une place dans sa vie, mais il ne devient pas son désir. Et justement, à la différence d'un animal, l'homme est structuré par une parole de Dieu qui lui indique comment guider sa voie, autrement que par l'instinct. Mais malheureusement, les passions, donc la chute serait que l'homme devient après l'esclave de ses passions. Et il y a tout un langage biblique sur le sujet. Je vous dis, c'est des débuts d'études théologiques que j'ai envie de mener, parce que ça m'a beaucoup parlé. Voilà ce que dit Paul dans Galates 5, 24-25. « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Ne soyons pas vaniteux, évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. » Puis l'apôtre Jacques, au chapitre 4, commence en disant « D'où viennent les conflits? D'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ?» Donc il y a une réalité qui touchait les chrétiens de l'époque. Il ne faut pas croire qu'on est à l'abri de ça. Et on doit tout le temps s'examiner. Alors quelque chose qui est très important, c'est ce que j'ai affiché là, c'est de faire la différence entre les valeurs essentielles et les vérités essentielles et les vérités secondaires. Les vérités essentielles, c'est les vérités sur lesquelles on ne peut pas négocier, on ne peut pas faire de concessions. C'est croire à cette vérité ou ne pas y croire, c'est la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Il y a des vérités non négociables. Et puis il y a des vérités secondaires où des chrétiens peuvent avoir un avis différent tout en étant l'un ou l'autre tout autant chrétien que l'autre. Je vais vous donner un exemple de vérité essentielle. La Trinité, ça ne se négocie pas. Si vous ne croyez pas la Trinité, vous n'êtes pas chrétien. Vous rejetez le Dieu de la Bible. C'est pour ça que les témoins de Jéhovah ne sont pas des chrétiens. C'est pour ça que les musulmans et les juifs ne sont pas des chrétiens, paraît-il, bien qu'ils croient en un seul Dieu. Ou bien les deux natures de Jésus, Jésus parfaitement Dieu, parfaitement homme, le salut par la grâce, etc. C'est des éléments essentiels. Mais d'autres questions, on les a peut-être bondies en disant « mais moi j'ai des convictions là-dessus ». Oui, moi aussi, et puis je ne renoncerai pas à ces convictions. Mais la forme du baptême, ou l'organisation des ministères dans l'Église, Ça ne fait pas de différence entre un chrétien et un non-chrétien. Celui qui baptise des enfants, celui qui baptise un adulte, ce n'est pas un chrétien et un non-chrétien. C'est deux chrétiens qui ont un avis très différent sur le sujet. Si on creuse un peu derrière, eh bien, on voit qu'il y a des gens formidables qui aiment le Seigneur des deux côtés. Voilà. C'est pour ça que les évangéliques peuvent lire un livre de Maurice Ray, hein, sans se sentir en enfer. Mais malheureusement, avec la chaleur des débats, la rudesse des débats, on élève parfois une vérité secondaire au niveau de vérité principale ou essentielle, et tout à coup on se divise en maudissant les autres, alors qu'il n'y aurait pas de quoi. Paul explique dans Philippiens au chapitre 3, verset 15, il montre un chemin de maturité. Philippiens a un problème d'unité, ce qui est à peu près le cas de toutes les églises du Nouveau Testament, donc il ne faut pas se leurrer, c'est comme ça. S'il n'y avait pas eu de problème dans les églises, on n'aurait peut-être pas d'épître aujourd'hui, tout simplement, parce que c'est presque toujours écrit en lien avec des conflits, pas que, mais disons, voilà. Et voilà ce qu'il dit, nous tous, donc qui sommes mûrs, adultes, adoptons cette attitude, et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus, seulement là où nous en sommes, marchons dans la même direction. On doit être capable aussi d'avoir la maturité, puis de voir à quel degré se situe le désaccord. Est-ce que ça m'empêche de communier avec mon frère ou ma sœur, fondamentalement ou pas? Pour la question d'Israël, je pense que les non-négociables, c'est le refus de toute discrimination envers le peuple juif, l'affirmation que le salut éternel n'est possible que par la foi en Jésus, qu'il n'y a jamais d'autre chemin de salut que le chemin par la foi, qui est manifesté en particulier par Abraham, l'attachement à la Bible comme parole pleinement inspirée de Dieu, et l'attente d'un retour historique de Jésus. Ça, c'est les vérités essentielles qui fondent la foi chrétienne. Les vérités secondaires, on va les voir, c'est la séquence des événements derniers. C'est l'idée, par exemple, que la renaissance d'Israël est un signe, ou pas, de la fin des temps. La question de savoir si un temple juif, avec les sacrifices, va être restauré ou pas. Ou même l'attente d'une conversion générale des juifs à la fin des temps. On peut, entre chrétiens, avoir des avis différents sur le sujet et rester chrétien. J'ai des amis chrétiens qui ne sont pas, comme moi, prémillénaristes, qui sont moins convaincus que la renaissance d'Israël est un signe de la fin des temps, mais qui ont de l'amour pour les Juifs, etc., et qui aiment Jésus. Et même si moi je trouve que c'est important, ce que je crois, je ne les disqualifie pas de leur statut d'enfant de Dieu. Je n'ai pas le droit. On ne peut pas reculer Le refus de la discrimination, le salut en Jésus seul et la Bible comme parole pleinement inspirée de Dieu. Voilà. Parole inspirée de Dieu. Après, il y aura toujours des petites positions, il y en a un débat, mais voilà. Alors, Mélenchon a repris un slogan qui a été déjà présenté par Augustin et je sais par un père de l'Église dont je ne trouve plus, parce que c'était un très obscur père de l'Église qui a lancé cette très belle parole. Mais dans tous nos débats chrétiens, il faut se mettre ces trois choses devant le nez. Dans les choses essentielles, unité. Dans les choses secondaires, liberté. Et en toute chose, charité. Donc, dans les choses essentielles, unité. On doit être unis sur la Trinité. On doit être unis sur Jésus-Christ, sauveur des hommes. Voilà, on peut pas. Je suis dans des instances écuméniques du canton de Vaud. On réfléchit sur un document de foi et constitution très très bien, qui dit, entre catholiques et protestants d'ailleurs, et évangéliques, de dire, mais ce qui fonde au moins le minimum de notre unité, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, et la Sainte Trinité. Oui ? Mélenchon. Je ne sais pas s'il est du 15e siècle. Je crois que c'est le disciple de... C'est le disciple de Calvin, je ne sais plus. C'est un réformateur. C'est un des deuxièmes réformateurs, des moins connus. Voilà. L'Alliance évangélique ? Ah, c'est possible, mais ça remonte, en fait, ça remonte à l'Antiquité, parce qu'il y a Augustin avant, et puis avant Augustin, il y avait encore un an. Ah oui, bon, ça, alors ça, c'est le fort des évangéliques, hein, mais ça, c'est notre point commun avec le peuple juif. On dit que quand deux juifs se rencontrent, il y a trois opinions qui s'expriment, les évangéliques, on n'est pas très loin derrière. Parce qu'on n'est pas non plus un organisme centralisé avec, voilà, on est très, chacun est pape à la maison, si vous voulez. Voilà. Alors moi je propose, on peut s'arrêter gentiment là, ça va, puis je laisse 5 minutes peut-être de battement, comme ça vous respirez un peu, et puis on repart comme en 14.
prendre un petit temps de questions-réponses. J'y mettrai fin si le temps se prolonge. Donc, mais n'hésitez pas, ce temps de questions-réponses est là pour vous poser des questions. Est-ce que quelqu'un a une question sur ce qui a été partagé jusqu'à maintenant? Il faut me faire signe et puis je viens avec le micro. Comme ça, souvent les questions qu'on pose dans des temps comme ça sont des questions qui en fait intéressent tout le monde. Donc comme ça, on peut simplement enregistrer la question et enregistrer la réponse aussi.
En venant, je me suis dit, moi, je veux la boucler, puis je veux écouter.
Je fais ça tout le temps. Vous en faites pas. Ça m'arrive tout le temps.
Alors voilà, il pourrait y avoir beaucoup de questions, mais je pense à Siméon puis Anne avant la naissance, enfin l'époque de la naissance de Jésus. Mais on peut aussi prendre les disciples de Jean-Baptiste, etc. C'était tous des Juifs à 100% qui attendaient le Messie. Mm-hmm. Ils l'attendaient. Et puis un jour, c'était la découverte. Ah ben, c'est Jésus le Messie. Et ça a été fabuleux pour ces Juifs. Alors ma question, puisque c'est une question, c'est de dire aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas penser que parmi ces Juifs croyants, il n'y a pas aussi des Siméons, des Anne et autres qui ne sont pas à côté de la plaque, si on veut, de même que Siméon n'était pas à côté de la plaque, simplement ils ne l'ont pas encore. Mm-hmm. Alors aujourd'hui, on peut dire, ben, ils n'ont qu'à le reconnaître, il est là. Mais avec l'image qu'on a donnée, que certains ont donnée, pas nous, on peut imaginer que peut-être ils en sont encore au stade avant de réaliser c'est lui, mais qu'en fait, dans leur cœur, ils sont droits et même si on dit que c'est Jésus qui sauve, mais ils étaient aussi déjà sauvés, les Juifs avant Jésus. Et de dire qu'aujourd'hui, on sait, mais il y a quand même peut-être certains rabbins, etc., qui à la fin sont très proches.
Alors, absolument, voilà. Je crois que vous avez raison de mettre le doigt sur cela. Je vais essayer d'étendre la réflexion même au-delà. Il y a d'abord des rabbins, même ultra-orthodoxes, qui se convertissent en secret à Jésus dans leur cœur, qui ne peuvent pas en faire état sous peine d'être exclus de la communauté. Donc, j'étais tombé une fois sur l'écrit d'un rabbin après sa mort qui a dit qu'il suivait Jésus comme son matriarche. C'était le seul qui correspondait. Donc, il y a vraiment ça. Il y a un mouvement de l'esprit qui fait qu'on a des dizaines de milliers de juifs messianiques aujourd'hui. Il y a 60 ans, on n'en parlait pas comme ça. Il y a des Juifs qui découvrent Jésus. On est aussi, et on en parlait tout à l'heure avec Ramsès, dans le monde musulman, on a le même phénomène. L'accès à une connaissance, Internet, la télé, etc., dans des systèmes parfois fermés, où on ne pouvait penser que selon la religion officielle, ben ça saute, ces choses-là. On a des informations de l'extérieur, et il y a des gens qui deviennent chrétiens. Dans le monde musulman, il n'y a jamais eu autant de conversions non plus à Jésus, sans entremise d'un missionnaire occidental, parce que peut-être pour un musulman chrétien, ce n'est pas non plus génial au niveau historique. Hein. Il y a eu des croisades, il y a eu plein de choses. Donc, voilà. Donc il y a des choses qui se passent, il y a un mouvement de l'esprit. Pour vous parler d'une expérience de juif orthodoxe vraiment qui s'est converti à Jésus, je connais bien, c'est un ami, c'est Johanan Goldman qui a été professeur d'Ancien Testament à la faculté de Fribourg, qui est devenu prêtre byzantin, mais qui est très évangélique, mais il est atypique. Mais lui, en tant qu'il a fait toutes ses yeshivotes et tout, hein, il était très ancré dans la foi, mais il était en vacances en Sardaigne et il a lu les évangiles. Et il a dit, j'ai trouvé le docteur de la loi que j'ai toujours cherché. Et il est devenu un serviteur de Jésus, un disciple de Jésus, sans qu'on l'ait évangélisé. Maintenant, plus largement, je pense que dans toutes les religions du monde, dans tous les systèmes de pensée du monde, le Seigneur montre que si les gens parlons des gens qui n'ont jamais entendu l'évangile, n'ont pas eu accès à l'évangile, si quelqu'un dans cette situation-là, à conscience de son péché, à conscience qu'il y a sans doute un Dieu avec qui il doit rendre compte, et qui dans son cœur dit, mais ô Dieu, si tu existes, pour même aller, ô Dieu, si tu existes, fais-moi grâce. Je pense que Dieu aura un regard sur cette personne en disant, mais si elle n'a pas pu entendre l'évangile, donc voilà, mais c'est comme si elle l'avait entendu. Et c'est aussi un grand argument pour les croyants de l'Ancien Testament. Ils n'ont pas eu la croix, ils n'ont pas vu Jésus. Mais Jésus dit, Abraham a vu mon jour et s'est réjoui. Et donc Abraham, sans savoir les détails, parce qu'il n'avait pas accès à ça, et même Pierre dit que les prophètes cherchaient dans leur prophétie pour comprendre, puis on leur dit, ce n'est pas pour vous, c'est pour plus tard. Donc il y a une partie qui ne comprenait pas. Mais de tout temps, depuis Adam, tous les hommes qui ont conscience d'un besoin de grâce, qui ne se reposent pas sur leurs propres œuvres, etc., qui s'attendent à une grâce de la part de Dieu, je pense que Dieu a un regard salutaire, favorable sur eux. Alors ça ne doit pas nous démissionner de la mission, parce que c'est quand même un chemin moins évident, et qu'on n'est pas... Voilà, mais bon, voilà, les voies de Dieu peuvent nous étonner. Et dans le cas du judaïsme, alors ce que je peux dire, c'est que ce qui peut arriver, ce qui serait compliqué, c'est quelqu'un qui est complètement dans la... J'utilise, c'est peut-être un barbarisme, la propagande antichrétienne qu'un juif entretient, il faudrait qu'il s'en débarrasse un peu. Comme un musulman, je veux dire, moi j'ai un couple musulman à qui on s'entend bien, et je me rappelle une fois, je disais à la dame, ah, j'ai fait un cours alpha ce soir, qu'est-ce que c'est? Ah ben, on parle de Jésus, et je vais expliquer pourquoi Jésus est mort. Tout de suite, non, Jésus n'est pas mort, c'est pas possible, Jésus n'est pas mort, un prophète ne peut pas mourir, etc. Donc tout de suite, elle avait son catéchisme de réponse au christianisme. Alors que par ailleurs, elle demande la prière, par ailleurs, elle nous accepte qu'on prie Jésus pour elle. Mais il y avait ce réflexe, c'est comme dire Jésus est le fils de Dieu, un musulman, il bondit tout de suite. Il y a une sorte de programmation dans le système religieux. Et dans le judaïsme, bien sûr, dire Jésus est le Messie, cette rabbine, pas rabbine, elle est pas rabbine, elle est orthodoxe, mais c'est une orthodoxe, c'est pas une Lubavitch, hein, puisqu'elle fait quand même des études, bon bref, mais se situe cette dame orthodoxe, dire Jésus est un enseignant de la Bible, c'est inacceptable. Donc il y a quand même un conditionnement dans le système religieux qui aveugle, comme ça aveuglait certains des pharisiens, etc. Mais il y a des pharisiens qui sont devenus des disciples de Jésus dans la Bible, c'est pas, voilà. Mais le judaïsme ne sauve personne, et je voudrais aussi souligner, le judaïsme n'est pas, alors ça c'est ma critique chrétienne, hein, j'en parlerai, n'est pas l'application respectueuse de l'ancienne alliance. C'est une déviation que Jésus a condamnée. Donc nous en tant que chrétiens, nous devons aimer le peuple juif, mais le système religieux judaïque, on a le droit de le contester, ou d'en contester des aspects, parce que quand ils font une fête, c'est bien.
J'avais une question par rapport aux vérités essentielles. Oui. Quand c'est dit de discrimination envers Israël, quand est-ce qu'on peut, envers les Juifs, quand est-ce qu'on peut vraiment parler de ça dans une église pour dire que cette église a des discriminations envers Israël? Vous pouvez me donner peut-être des exemples? Parce que ça, oui. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que des fois, dans des églises, on ne partage pas peut-être les mêmes opinions, mm-hmm. mais on croit que Dieu aime Israël, par exemple dans ma situation, mm-hmm. et que Jésus est le seul sauveur, je crois à la parole de Dieu et tout ça. Mais peut-être je ne crois pas à d'autres principes par rapport à Israël que peut-être je n'ai pas compris, oui. mais je me sens peut-être mise à l'écart où c'est comme si on me considérait que j'étais anti-Israël, mais mm-hmm. au fond de mon cœur, pas. Quand est-ce qu'on peut vraiment dire qu'est-ce que je dois comprendre pour ne pas faire de la discrimination envers Israël?
Alors, je ne parlais pas de discrimination envers Israël, parce que ça, c'est très confusant comme terme, parce qu'Israël, ça peut être la nation juive, ça peut être, voilà, ou les Israéliens en Israël et pas la diaspora, etc. Ce que la Bible nous interdit, c'est la discrimination envers les gens, la haine envers les gens. Maintenant, la critique, par exemple, de la politique du gouvernement israélien actuel, c'est ce que font beaucoup d'Israéliens eux-mêmes. Ce n'est pas en soi un problème. Donc, par exemple, je dis, moi, je vais en parler, on va parler de ça en détail, mais la renaissance d'Israël, je l'accueille comme un miracle, mais c'est un demi-miracle pour l'instant. Il manque la renaissance spirituelle. Et je vais parler d'Adolf Hunziker, qui a fait une très belle prière dans un de ses livres, il y a 50 ans déjà, pour la conversion des Israéliens. Donc, la discrimination, je veux dire, contre les Juifs, c'est du même ordre que la discrimination raciale, sexuelle, voilà, où on va commencer à dire le Juif est maudit parce qu'il est Juif, comme on disait, je sais pas, en Afrique du Sud, qu'un Noir est maudit parce qu'il a la malédiction de Cham sur toutes les gens qui ont la peau noire. Et puis c'est même le signe du péché, je veux dire, on a des horreurs qui ont été faites. Et dans l'histoire de l'Église, je veux dire, c'est pas, il y a un siècle, c'était pas si clair chez les chrétiens par rapport aux autres ethnies et puis par rapport aux juifs non plus. Donc c'est vraiment fondamental, je crois que c'est inacceptable. Puis bon, on a la Shoah derrière nous quand même, qui fait d'ailleurs que même les théologiens qui sont plus réservés sur le rôle d'Israël à la fin des temps réalisent jusqu'où un certain discours a porté. Et donc là, il faut vraiment, et dans nos pays, voilà, je pense en Suisse, je pense qu'il y a des combats par rapport à la xénophobie aussi, la haine, par rapport aux musulmans qui sont parmi nous, il y a quand même, alors personnellement, j'ai une fille aînée qui s'est convertie à l'islam, bon, elle en est revenue, mais elle n'est toujours pas chrétienne, mais voilà, mais quand j'entends des choses sur les musulmans, je peux dire d'ailleurs à certains chrétiens, tu te rends compte, tu es en train de parler de ma fille, Tu es en train d'en faire une personne qui a un couteau entre les dents, qui veut nous égorger la grande nuit où l'islam va être la religion du pays. Avec des choses aberrantes qui étaient exactement les mêmes structures que les antisémites entre les deux guerres. Ils sont parmi nous, ils ne sont pas des nôtres, il y a un complot musulman. Les autres, avant, c'était un complot judéo-maçonnique. Hein, voilà. Donc les mêmes délires hein, et les mêmes haines et qui mènent, on sait très bien où ça mène historiquement, ça mène à des pogroms, à des choses. Donc il faut être très alerte, averti, pas croire qu'on a dépassé ces dangers. Ils existent. Il y a encore des gens aujourd'hui, même dans nos églises, qui ont des réflexes xénophobes, discriminants, qui sont inacceptables devant le Christ. Ce qui ne veut pas dire ne pas voir certains dangers, les dangers de l'islamisme, etc., bien sûr. Je voudrais juste vous souligner, sur la question de l'islam, je sors un peu du sujet. Quelle est la religion qui progresse le plus vite et le plus violemment en Suisse? Les sans-religions. 10% de plus chaque année, de chaque décennie, de gens sans religion. Bâle, ville, majoritairement sans religion. Donc on a peur des musulmans parce que voilà, il y a des trucs qui arrivent, des attentats, etc. Mais le mouvement religieux le plus dangereux, c'est les sans-religieux. Qui ne se reconnaissent dans aucune religion, dans aucune croyance, sans aucune. Ouais, alors c'est pas forcément qu'ils croient à rien, mais c'est qui c'est sans religion, ça ne s'affilie à aucune religion, donc il y a vraiment un détachement de plus en plus, qui est une chance pour l'Église entre nous, une chance d'évangélisation, parce que les gens ne diront pas « Ah, je connais ». Ils disent « Ah non, je ne connais pas, c'est quoi ce monsieur sur la croix là ? Ça veut dire quoi ?» Je veux dire, on a peut-être des chances d'évangélisation avec une population qui est pas, qui pense ne pas savoir, ou qui ne sait plus. Mais il faut réaliser que la menace pour notre Europe, regardez en France, 60% des Français sont classés athées, sans Dieu. Et je pense que c'est un vrai défi, mais c'est le même défi que les premiers chrétiens. C'est génial. La société qu'on connaît maintenant, pluriculturelle, avec des gens qui croient à peu près tout, c'est exactement là où l'Église de Jésus-Christ a grandi formidablement dans le temps des Actes. Donc il ne faut pas s'en émouvoir, c'est normal. Je préfère ça que d'être dans un pays qui est dominé par un catholicisme ou une foi réformée, ou un islam, ou un judaïsme. Ça c'est moins le cas, qui imposerait à tous d'être de cette religion, c'est beaucoup plus compliqué pour annoncer l'évangile qu'une société plurielle. Il faut simplement savoir se comporter dans cette société de manière civilisée, et comme les premiers chrétiens, prôner la liberté de croyance pour tous. Hein. Avant qu'ils aient le pouvoir, ils voulaient que tous, que les païens restent païens, mais que les chrétiens puissent être chrétiens. Hein. Voilà. Et puis on va gagner des âmes. Bon, là je suis sorti de mon sujet, mais voilà.